Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Les parlementaires de l'Ituri dénoncent les attaques attribuées aux ADF dans les territoires de Mambasa et annoncent des démarches auprès des autorités. Selon leur président, cette initiative vise à obtenir des mesures concrètes et urgentes pour mettre fin à l'insécurité persistante qui frappe cette partie du pays. Flambée des cas de rougeole dans plusieurs zones de santé dans la province du Nord Kivu depuis plus de 6 mois maintenant. C'est pour répondre à ces besoins que MSF a ouvert un centre de prise en charge gratuite des complications de la rougeole à l'hôpital de Kieshero de Goma. Le bureau de l'Assemblée nationale entend accentuer le contrôle de l'action du gouvernement au cours de cette session parlementaire. Pour en parler, nous recevons son rapporteur Jacques Djoli qui affirme que plusieurs questions tant sécuritaires que socio-économiques seront examinées afin de répondre aux besoins réels des Congolais. Mesdames et messieurs, encore une fois bonjour. Les parlementaires de l'Ituri dénoncent les attaques attribuées aux ADF dans les territoires de Mambasa et annoncent des démarches auprès des autorités. Réunis ce mardi au Palais du Peuple à Kinshasa, les membres du caucus des élus de cette province ont examiné la dégradation alarmante de la situation sécuritaire dans cette zone théâtre des violences ces derniers jours. Selon leur président, Pichu Iribi, cette initiative vise à obtenir des mesures concrètes et urgentes pour mettre fin à l'insécurité persistante qui frappe cette partie du pays. On l'écoute dans ses propos recueillis par Grace Amzati Masanzi.
Depuis une semaine, le territoire de Mambasa connaît une attaque de forces négatives de ADF Nalu. Depuis, ils sont en train de parsemer le deuil au sein de la communauté itourienne. Nous nous associons d'abord à la douleur de la population de Mambasa. Parce que depuis une semaine, cette population est en train de souffrir. Ils passent de mauvais moments. De massacres à ciel ouvert sont perpétrés. Des gens sont morts et d'autres sont encore en errance. Ils savent pas où mettre la tête. Nous exprimons toutes nos compassion à cette population. Mais nous appelons aussi nos forces armées de prendre les dispositions idoines pour sécuriser la population. Nous rassurons cette population que nous, les élus, nous nous sommes réunis aujourd'hui pour que nous puissions définir un programme de travail et bientôt des rendez-vous avec les officiels sont en train d'être pris pour rencontrer le vice-premier ministre de la Défense, les chefs d'état-major général ainsi que les autres.
Ituri encore, environ 15 000 personnes déplacées ayant fui les récentes violences de groupes armés dans les territoires de Djougou ont bénéficié lundi d'une assistance humanitaire dans la zone de santé de Kambala, en territoire voisin de Mahagi. Cette aide s'inscrit dans le cadre du projet Réponse rapide de l'UNICEF, mis en œuvre par l'ONG Programme de promotion de soins de santé primaire PPSSP. Objectif, réduire la vulnérabilité de ces populations qui vivent dans des conditions extrêmement précaires. Isaac Remoyope, reportage.
Chaque famille bénéficiaire a reçu des articles ménagers essentiels. Il s'agit notamment d'ustensiles de cuisine, des nattes, des couvertures, des gobelets et des bidons pour la conservation de l'eau. À cela s'ajoutent des pagnes, des kits d'hygiène intime pour les femmes en âge de procréer, du savon pour la lessive ainsi que des produits pour la chloration de l'eau potable. Ces bénéficiaires sont des personnes déplacées et enfouies au cours de ces 3 derniers mois. Les affrontements entre les groupes armés Convention pour la Révolution Populaire SRP et les FARDC dans les territoires des Djougou. Selon les chargés des communications de l'ONG PPSSP, ces familles vivaient jusque-là dans une précarité extrême. Trésor Muyumba explique l'importance de cette assistance humanitaire.
L'objectif est d'améliorer tant soit peu les conditions de vie de ces déplacés, qui sont les déplacés ne dépassant pas 3 mois.
Présent lors de cette activité, le chef du secteur de Walindouatsi a salué cette intervention en faveur des sinistrés. Il souligne toutefois que les besoins restent énormes et lance un appel aux partenaires humanitaires tout à l'heure assurant que la sécurité est garantie dans son entité. L'automne fait-il.
Il y a encore des besoins qui restent. Je voudrais que ça continue en Akoupi. Je voudrais que les partenaires papiers y viennent.
Il convient de noter que la majorité des personnes déplacées, réparties dans plus de 60 sites à Nitouri, ne bénéficient plus d'une assistance alimentaire en raison du manque de financement au niveau international. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Au sud Kivu, une accalmie s'observe depuis ce mercredi matin à Luvungi et dans les restes de la plaine de la Ruzizi. Cela après les affrontements à l'arme lourde hier entre les forces armées de la RDC et la rébellion AFC M23 appuyée par les groupes armés locaux. Des habitants contactés sur place par Radio Kapi témoignent s'être réveillés dans un calme apparent, même si l'angoisse demeure. Les milliers de déplacés venus de Runingu la veille continuent d'inonder plusieurs localités. Ce matin, chaque camp maintenait ses positions initiales et les bombardements ont cessé. L'armée n'a pour l'instant communiqué aucun bilan des affrontements d'hier. En mission à Goma depuis lundi, Bruno Lemarquis, coordonnateur résident et humanitaire pour la RDC et chef intérimaire de la MONUSCO, a appelé les responsables de la rébellion AFC M23 qui occupe la zone au respect absolu de l'espace humanitaire. C'était au cours d'une rencontre avec ses autorités de fait de Goma et de ses environs conduite par Corneille Nanga. Selon Bruno Lemarquis, la réunion s'est concentrée exclusivement sur les enjeux humanitaires. Le chef par intérim de la MONUSCO a insisté sur la nécessité impérative de garantir aux acteurs humanitaires un accès sécurisé aux populations vulnérables qui attendent une assistance d'urgence. On l'écoute.
On a parlé de la situation des personnes en grande vulnérabilité à l'est de la République démocratique du Congo, de la manière dont les acteurs humanitaires travaillent avec les autorités ici à Goma, les autorités de fait, sur un certain nombre de sujets, en réitérant également l'importance du respect du droit international humanitaire, du respect de l'espace humanitaire pour que les nombreuses organisations humanitaires congolaises et internationales qui travaillent ici à Goma et dans les territoires puissent avoir accès aux très nombreuses personnes qui sont dans le besoin, surtout les besoins d'urgence, les nombreuses personnes déplacées ou toutes les personnes qui sont retournées chez elles mais qui font toujours face à des hauts niveaux de vulnérabilité. Donc c'est très important qu'il y ait un dialogue sur ces questions, un dialogue apolitique puisque l'aide humanitaire ne vise qu'à une seule chose, c'est apporter une assistance aux personnes les plus vulnérables. Il y a un mécanisme en place maintenant qui fonctionne. On a parlé de comment l'améliorer.
Restons au nord Kivu. Plusieurs zones de santé enregistrent une flambée des cas de rougeole depuis plus de 6 mois. Chaque jour, de nombreux nouveaux cas sont notifiés dans les centres de santé à travers la province. Si certains enfants sont pris en charge à ce niveau, d'autres qui développent des complications dues à la rougeole nécessitent des soins appropriés. C'est pour répondre à ces besoins que l'ONG Médecins Sans Frontières a ouvert un centre de prise en charge gratuite des complications de la rougeole à l'hôpital de Kieshero de Goma. Une initiative appréciée par les parents. Rosalie Sawati a visité ce centre et nous propose ce reportage.
Avant d'accéder au centre, il faut d'abord se laver les mains.
Situé à l'écart au sein de l'hôpital général de référence de Kieshero, ce centre respecte un protocole strict dans la réception des cas référés par les centres de santé de Goma, Karisim Bienyiragungu. Cette mère, qui s'est réjouie de voir aujourd'hui son enfant jouer sur son lit d'hôpital, se rappelle dans quel état il a été admis ici.
Quand je suis arrivée ici, l'état de mon enfant était très grave. Il avait une forte fièvre, la grippe, une toux qui ne s'arrêtait pas pendant que je circulais dans les pharmacies pour chercher les médicaments qui n'amélioraient même pas l'état de l'enfant. On m'a dit que je pouvais venir ici pour une bonne prise en charge. Et depuis que je suis là, son état s'améliore et nous disons merci à tous ceux qui interviennent dans ces soins de nos enfants.
Comme il a connu l'angoisse de voir son enfant lutter contre les complications de la rougeole, cette mère invite les autres à ne pas rater les rendez-vous de la campagne de vaccination des masses en cours. Pour sa part, le docteur Ahadi Kamabou, coordonnateur médical pour MSF de ce centre, explique que sur les 50 lits disponibles ici, la moyenne de fréquentation est de 20 à 30 lits depuis 6 mois. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Santé toujours dans la province du Maniema, plus de 500 nouveaux cas de drépanocytose ont été dépistés au cours de l'année 2025. L'information a été révélée à Radio Kapi ce mardi par le point focal du programme national de lutte contre la drépanocytose au Maniema. Le docteur Antoine Lufimbo, s'est exprimé à l'issue d'une session de formation consacrée au dépistage de l'anémie SS et à la prise en charge adéquate de cette maladie conformément au protocole national. Cette formation organisée à l'intention des prestataires des établissements de santé s'est clôturée le même mardi. Selon lui, au-delà du renforcement des capacités du personnel soignant, les organisateurs visent à réduire de manière significative la mortalité et la morbidité liées à la drépanocytose dans la province. On écoute le docteur Antoine Lufimbo, point focal du programme national de lutte contre la drépanocytose au Maniema, au micro de Florence Kizalunga.
La drépanocytose, c'est un problème sérieux de santé publique. Il a été prouvé qu'environ 2 à 3% des enfants naissent avec l'anémie SS. On a même montré que presque 10% des femmes qui décèdent sont porteurs du gène S. Donc c'est un sérieux problème de santé publique. Et également, dans la province du Maniema, les statistiques ont montré que durant l'année 2025, il y a eu plus de 500 nouveaux cas de drépanocytose qui ont été dépistés. Et donc c'est un sérieux problème. Après cette session de formation, nous espérons que les IT vont commencer maintenant à prendre en charge correctement les drépanocytaires selon les normes et directives nationales, en organisant correctement les suivis, mais également en prenant en charge les cas qui sont bénins et les cas qui sont sévères vont être transférés à l'hôpital général de référence. Notre objectif final, c'est de participer au dépistage des masses pour que les enfants, les adultes, chacun connaisse son électrophorèse d'hémoglobine et ainsi éviter des mariages à risque, les mariages entre AS-AS ou bien les mariages entre AS-SS.
Province du Haut-Katanga, hausse du prix de la farine de maïs sur les marchés locaux à Lubumbashi depuis quelques jours. Et pour cause, l'effondrement du pont de Kakoso en Zambie, ce qui perturbe l'approvisionnement de la ville de Lubumbashi, indique certaines sources. Signalons que la farine de maïs, aliment de base de l'Ouchoua, provient essentiellement de la Zambie en passant par la ville frontalière de Kasumbalesa. D'autres détails avec Paulin Monanga.
Un sac de 25 kilos de la farine de maïs qui se vend actuellement à 55 000 francs congolais, voire 60 000 francs sur le marché local à Lubumbashi, s'est négocié il y a peu entre 35 000 et 38 000 francs congolais. Profitant de cette situation, certains commerçants véreux spéculent sur le prix de cette denrée alimentaire. D'autres se décident carrément de ne pas écouler leur stock, attendant que le prix de la farine de maïs se stabilise. À la base de cette hausse de prix, l'effondrement du pont de Kakoso survenu à la fin du mois de février dernier. Ce pont est situé sur l'axe routier Chingola-Chilila-Bombwe en Zambie. Il relie plusieurs zones agricoles et industrielles de la Zambie à la frontière de Kasumbalesa, rapporte certaines sources. Les autorités routières zambiennes soulignent que l'ouvrage s'est effondré à la suite des fortes pluies qui se sont abattues dans la région. Et lorsque la circulation est perturbée sur cette route, l'approvisionnement du marché est affecté. Signalons que depuis l'effondrement du pont, les transporteurs empruntent des routes plus longues pour contourner le pont, ce qui impacte sur les prix des produits dont la farine de maïs. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Parlons de la paralysie des activités économiques dans la ville ferroviaire de Mweneditu, dans la province de la Lomami. Depuis lundi dernier, les commerces n'ont pas ouvert leurs portes. À la base de ces mouvements, selon la Fédération des entreprises du Congo FEC Mweneditu, les opérateurs économiques protestent contre la hausse mensuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations hyper perçues par la Direction générale des impôts, les paiements de la taxe sur la valeur ajoutée ajouter TVA, ainsi que l'application du SMIG. Des explications avec Esther Dalafina.
Les activités économiques sont paralysées à Mweneditu. Les propriétaires de magasins et boutiques ont décidé de suspendre momentanément leurs activités. Plusieurs réclamations ont été annoncées ce mardi au maire de la ville qui a voulu s'enquérir de la situation.
Tracasserie.
Il y a des tracasseries commises par les agents de la DGI. Nous ne refusons pas de payer les impôts. Nous refusons plutôt la tracasserie. Ils nous font payer les impôts et chaque mois, ils les augmentent.
D'autres sont allés plus loin jusqu'à exiger le départ du chef des centres synthétiques de la DGI Mweneditu, affirme la FEC.
Nous demandons
justement le départ des chefs de centre et quelques agents.
Pour baisser la tension, Gérard Tshibanda, maire de la ville, dit avoir invité d'urgence les responsables de la DGI pour discuter autour du problème qui les oppose aux commerçants.
J'ai appelé le chef de la DGI à 15h. Je vais l'écouter. J'ai déjà informé le gouverneur titulaire et son adjoint. Je me suis investi. Soyez donc calme.
Les conséquences se font déjà sentir. Betty Mujinga, une ménagère, ne sait plus acheter les articles au magasin. Signalons que tous les opérateurs économiques sont invités ce mercredi à la mairie de Mweneditu pour des discussions. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Parlons de la femme, notez le nom de ce projet. Il est intitulé « Appui à la cohésion sociale et à l'autonomisation des groupes vulnérables à Beni ». Ce projet de 3 mois a été lancé hier mardi à Beni, dans le Nord Kivu, au profit d'une 50aine de femmes en situation de vulnérabilité. Initié par l'organisation AFNAC, il vise bien sûr à renforcer l'autonomie de ces femmes afin qu'elles deviennent capables d'assurer leur prise en charge. Marc Marofimbo nous en dit plus.
Les projets composés de plusieurs activités génératrices de revenus, élevage de petits bétail, coupe-couture, pâtisserie et petits commerces. Parmi les bénéficiaires figure Marie-Thérèse, femme pygmée qui a opté pour l'élevage de petits bétail. Elle exprime sa satisfaction. De la façon qu'on nous appuie, nous demandons qu'ils ne cessent de nous accompagner. Les femmes pygmées remercient ces projets d'élevage des petits bétail car c'est vraiment du domaine d'une femme pygmée. Une autre bénéficiaire, Masika Kavuo, veuve, estime que ces projets constituent un soutien essentiel à la stabilité économique des ménages dirigés par des veuves. Ça fait longtemps que nous autres sommes veuves, mais voilà que nous avons un projet qui nous sera très utile pour prendre en charge nos enfants et nos petits-fils dans les jours à venir. Pour la coordinatrice de l'AFNAC, ce projet répond aux nombreux plaidoyers menés auprès des partenaires afin d'appuyer ces femmes vulnérables, majoritairement des déplacés de guerre. Benyam Kenger estime que cette initiative vise à renforcer la résilience économique de ces femmes et à encourager leur autonomisation durable dans un contexte où la précarité affecte fortement les familles vulnérables de la région de Beni. Marc Marufimbo, Beni, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Depuis fin 2025, un vaste écosystème de comptes inauthentiques actifs sur Facebook, TikTok et X cible les pays de l'Alliance des États du Sahel. Scoop Africa, la Dépêche africaine, la Voix du Faso, ces profils se font passer pour des médias dans le but de discréditer les pouvoirs en place au Burkina Faso, au Mali et au Niger. La cellule Info Vérif de RFI a enquêté avec les observateurs de France 24 sur ces réseaux structurés à l'origine de nombreuses fausses informations en Afrique de l'Ouest.
L'invité.
Le bureau de l'Assemblée nationale entend accentuer les contrôles de l'action du gouvernement au cours de cette session parlementaire. C'est ce qu'indique son rapporteur Jacques Njoli dans une interview exclusive accordée ce mardi à Radio Capi. Selon lui, plusieurs questions tant sécuritaires que socio-économiques seront examinées afin de répondre aux besoins réels des Congolais. Le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, Jacques Njoli, s'entretient avec Grace Hamzati Masanzi.
Jacques Njoli, bonjour.
Bonjour.
Quelles sont les matières sur lesquelles vous allez vous pencher tout de suite?
Je crois que les matières se priorisent en fonction du contexte et des attentes de notre population dont nous ne sommes que de simples représentants. À cet effet, il faut savoir que la session de mars, c'est une session essentiellement des contrôles. Donc, nous allons auditionner l'ensemble des institutions, surtout les institutions d'appui à la démocratie. Et ça, c'est ce qu'on appelle les matières non législatives. Dans ces matières non législatives aussi, il faut mettre le contrôle parlementaire. Comme le président l'a dit, nous allons rationaliser ces contrôles parce que nous avons plus ou moins 80 questions écrites et orales. Il faudra donc essayer de gérer pour que sur les 3 mois, c'est-à-dire les 12 semaines, nous puissions, n'est-ce pas, accroître le taux de réponse ou d'élucidation de ces questions orales qui est assez faible et qu'il faudra, n'est-ce pas, augmenter et densifier. Sur les matières législatives, nous avons des arriérés législatifs. Certains arriérés législatifs sont des initiatives qui doivent faire l'objet d'analyses et d'examens en commission paritaire. Mais il y a énormément de questions qui sont dans les commissions pour lesquelles nous allons essayer de vitaliser l'action des commissions pour qu'elles puissent, n'est-ce pas, ramener les matières à la plénière. toujours sur ces plans législatifs, et c'est là les questions, je dirais pas prioritaires, mais des questions très importantes qu'il faudra examiner. Il s'agit notamment des projets de loi autorisant le président de la République à ratifier les accords de Washington entre nous et les États-Unis sur les questions stratégiques et des coopérations renforcées, tout comme l'accord que nous avons signé avec le Rwanda pour fixer les cadres d'intégration régionale qui doit nous amener à reconnaître la souveraineté permanente de la République démocratique du Congo sur ses ressources et la possibilité de coopérer avec les voisins, nous les avons 9. Alors, ces deux matières, il faudra aussi coupler avec une loi sur le projet Inga, qui doit, n'est-ce pas, être le pivot de la réindustrialisation de notre pays. Et au-delà de cela, il y a une loi qui est très intéressante, très importante, c'est la loi sur les zones économiques spéciales, tout comme les lois liées à l'entrepreneuriat pour booster notre économie.
L'opposition vous accuse, vous, membres du bureau, de bloquer parfois les contrôles parlementaires pour couvrir le gouvernement. Qu'en dites-vous?
Le bureau n'est pas là pour protéger le gouvernement. Si vous prenez les statistiques, en ce qui concerne les questions écrites par exemple, le taux de réponse du gouvernement dépasse le 75% sur l'ensemble des questions reçues. Il était fait que la session passée, les questions orales avec débat n'ont pas dépassé les 7 à 8%. Non pas simplement parce que les ministres n'étaient pas disponibles, mais aussi parfois parce que les députés qui a invité les ministres n'étaient pas là. Il faut souligner que la session passée, la session de septembre, a été une session particulière. De septembre jusqu'au 15 novembre, l'Assemblée était préoccupée par le changement de membres du bureau. Donc, on a eu à travailler simplement pendant un mois, et pendant cette période-là, c'est essentiellement la reddition des comptes, le budget. Je crois que nous allons prendre en charge cette question de l'impératif de densifier les contrôles.
De manière résumée, qu'est-ce que cette population peut attendre de vous durant cette session?
La population veut que toutes les questions que nous avons entendues, les problèmes soulevés lors de nos vacances parlementaires, soient synthétisés et trouvent des solutions. La population veut de routes, veut de solutions en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté. La population veut des solutions pour l'amélioration de la gouvernance globale et locale. La population veut que ses besoins sociaux de base soient résolus, santé, éducation, logement, eau, et toutes ces questions seront ou sont prises en charge par l'Assemblée nationale.
Jacques Joly, je vous remercie.
Et c'est moi qui vous remercie.
C'était Jacques Joly, le rapporteur de l'Assemblée nationale qui s'entretenait avec Grace Hamzati Masanzi. Et c'est ce qui met fin à ce journal parlé de la mi-journée, coordonné par Élisée Chikota-Chivueta, supervisé par Suzanne Zobo-Odra et mise en onde par Pierre Diassinois. Vous pouvez suivre ce journal sur notre compte TikTok ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net.